Le samedi.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Paul-Raphaël Charon.
Ségal, le midi.
FM 93.
Paul, notre collègue Elisabeth Crête a fait entendre ce matin le témoignage d'une femme dont la famille a été gravement affectée parce que ce qu'on pensait être la maladie de Lyme.
Oui.
La maladie de Lyme, là, quand tu te promènes un peu, moi j'ai fait beaucoup de parcs aux États-Unis, un peu partout, là, ils te mettent en garde contre ça de façon systématique, notamment dans le nord-est des États-Unis. Mm-hmm. Ils te disent notamment d'inspecter tes jambes. Quand tu as fini une randonnée, tu sais, souvent, toi, tu es en jambes à l'année, là.
Oui.
Bon, alors, tu vas te promener dans le parc Chauveau, là.
Oui.
Puis, quand tu finis ta rando, là, tu regardes attentivement tes jambes, voir s'il n'y a pas une espèce de petite tique noire d'accrocher dedans.
Ah, je fais juste écouter parler, puis on est au début de la discussion en plus, là, puis j'ai déjà peur de n'avoir partout ses jambes.
Ben non, c'est, ben non,
ça
ben
m'effraie. Non, mais ça m'effraie, moi, ça.
J'ai fait des centaines de randonnées, puis ça m'est arrivé une fois d'avoir à un moment donné une petite tique qui s'accroche. Moi, je me suis aperçu tout de suite, ça faisait mal. Bon.
Ah ouais, c'est juste ça.
Ben moi, je l'ai senti, là.
OK.
Mais tu sais, il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres, je sais pas, là.
Ouais.
Mais écoute, ça m'est arrivé une fois sur des milliers de kilomètres. Oui, ma montre m'a dit que j'ai fait le tour du monde.
Ah oui?
Oui, en termes de kilomètres.
Sérieux?
Oui, oui.
C'est fou,
fait
ça.
Que, faut quand même pas paniquer, là. Ça arrive pas à tout bout de champ, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mm-hmm.
Puis, il faut que tu t'inspectes, effectivement. C'est surtout après les jambes qui montent, là, tu sais. Parce que
ouais.
La tique, là, elle va pas te sauter dans le cou ou dans la face.
Non, parce que c'est des bébites qui s'accrochent sur les feuilles ou sur les brins d'herbe, ce que j'ai compris, là.
C'est ça.
Puis là, ton passage, si tu mets le pied dans le foin, par exemple, là, va comme
C'est pour ça qu'une des recommandations, c'est de rester dans le sentier.
Ou de se mettre des culottes longues.
Parce que si tu sors du sentier, là, tu vas être dans l'herbe haute, t'as plus de chance, effectivement. Mais, tu sais, si tu restes dans le sentier, généralement, il n'y en a pas de problème. Fait qu'il faut quand même pas capoter complètement. Mais la maladie de Lyme fait l'objet de grandes discussions scientifiques à travers le monde parce que il y a, au Canada, on considère qu'elle n'est pas transmissible d'être humain à être humain. Que
okay.
Donc, si tu es piqué, que la tique reste après ta jambe un certain temps, tu peux être infecté. Et ça se traite par des antibiotiques. Mais donc, ça ne peut t'arriver que si tu es piqué toi personnellement.
Mm-hmm.
Or, il y a, et c'est ce qu'Elisabeth a raconté ce matin, il y a de plus en plus de gens au Québec qui pensent qu'on sous-estime la maladie de Lyme et qu'elle peut être transmissible d'être humain à être humain. Et Elisabeth a fait entendre le témoignage de Julie, dont le mari est un agent de la faune et qui a contracté la maladie durant son travail,
okay.
L'agent de la faune. Sauf que le test qu'on lui a fait subir au Québec, qui s'appelle Elisa, ne l'a pas diagnostiqué. Peut-être qu'il n'est pas allé assez tôt, je ne sais pas, mais les symptômes étaient dramatiques. Le gars, il dormait 22 heures sur 24,
hey
il était
boy.
Complètement à terre, il pouvait même plus se marcher, il était plié en deux, et Julie a constaté petit à petit que le reste de sa famille, c'est-à-dire ses deux enfants, y compris celui qu'elle a mis au monde alors que son mari était déjà malade, commençait à développer des symptômes qui ressemblaient beaucoup.
Oh.
Et ça a été compliqué de se faire diagnostiquer parce qu'évidemment, le test ELISA, semble-t-il, faut que tu le passes assez vite après après t'être fait piquer. Sinon, il ne détecte plus la maladie après.
Oui, puis faut-il que tu aies eu les symptômes puis que tu aies le temps de penser que c'est peut-être ça, là?
Et il y a des laboratoires, en Californie notamment, et en Allemagne, où tu peux envoyer des échantillons sanguins, ça coûte une petite fortune, et là, on oui. te diagnostique la maladie de Lyme. Sauf qu'au Québec, on ne reconnaît pas ces diagnostics-là. Alors, je te fais entendre Julie au oui. sujet des diagnostics.
Dans le fond, Rémi, lui, on l'avait su par un test chez Genex en Californie. Son test, Elisa, était négatif, mais il a commencé par faire un test chez Genex en Californie qui est revenu positif. On voulait, bon, donner du poids au positif. On a payé, puis on a refait un autre test en Allemagne. Eux, ils ont une méthode différente des États-Unis là, d'analyser le sang. Puis, c'est revenu aussi positif pour Rémi et pour Ulysse. Suite à ça, là on a eu un petit choc. Puis, on avait l'option de parler à un médecin en Allemagne via Skype. Alors, on l'a fait. c'était une rencontre purement médicale, là, où est-ce qu'ils essayent pas du tout de nous vendre les traitements là-bas, mais ils te parlent de tes résultats sanguins. Puis là, il le dit, mais si vous êtes convaincu qu'Ulysse a ça depuis le jour de sa naissance, c'est que Ulysse, il l'a à cause de sa maman. Donc là, j'ai dit, ben voyons, là je me suis mis à me dire, ben tous les symptômes que moi j'associe au stress, ben finalement, c'est peut-être pas le stress. Alors, on a ressorti un autre 2000$. On est allé, Elliot et moi, faire des tests.
C'est pas dans le système de santé québécois, ça?
Ah, pas du tout. Là, chacune des prises de sang. Dans le fond, le test ELISA au Québec est gratuit, sauf que il laisse passer plus de 50% des cas. Donc, le test est trop sévère. Il laisse passer trop de personnes qui sont atteintes de maladie. La particularité de la maladie de Lyme, c'est que elle se camoufle. Donc, plus le temps passe, la maladie se promène, elle se camoufle, alors elle est super difficile à diagnostiquer avec le test ELISA. Ce qui fait qu'on laisse passer des gens dont la santé dégringole et des gens là qui sont psychologiquement, tu sais, vous n'avez pas idée à quel point c'est troublant de se faire dire tout le temps que c'est dans ta tête.
Donc, juste pour résumer, ces gens-là, il y a des symptômes, ils sont inquiets, ils savent pas ce qui se passe, ils envoient des prises de sang en Californie, reçoivent des résultats, font interpréter ces résultats sur une consultation sur Internet avec un médecin en Allemagne.
Non, ils font un premier test en Californie, diagnostic maladie de Lyme, un deuxième test en Allemagne, diagnostic maladie de Lyme, et là, ils jasent avec un médecin allemand qui leur explique le test. Maintenant...
Et quand ils reviennent, il faut qu'ils passent d'autres tests, puis ça leur coûte 2000$.
La beauté de la chose, c'est que les infectiologues au Québec refusent de reconnaître ces tests-là. Tu sais, à beau mentir qui vient de loin, moi, je me méfie, je suis de celles qui se méfient énormément des trucs qu'on fait à l'étranger, mais qui sont pas disponibles ici, etc. Mais le fait est qu'il y a un infectiologue au Québec qui prend ces gens-là au sérieux et qui les traite. Il s'appelle Amir Kadir.
Ça me dit quelque chose.
Ça te dit quelque chose? Et Amir Kadir, donc, les met aux antibiotiques, une espèce de party d'antibiotiques, tu sais, trois types d'antibiotiques ensemble, qui sont remboursés en partie par l'assurance maladie. Là. Bon, et ça marche. Alors, ils arrivent à guérir, sauf que pour compenser les antibiotiques, ils doivent prendre des probiotiques qui coûtent 700$, là, mais...
Oui, mais n'empêche que ça marche.
Là, il y a un traitement qui a l'air de marcher. Alors, que ce soit la maladie de Lyme ou pas, il me semble qu'il faut quand même reconnaître que le traitement fonctionne. Puis ça, ça peut pas être dans la tête d'un enfant de 2 ans que le traitement fonctionne, comprends-tu?
Oui, c'est ça.
Bon. Alors, il y a quand même quelque chose de bien étrange dans tout ça. Est-ce que ces tests-là en Californie ou en Allemagne ne sont pas fiables? Je le sais pas. Mais les infectiologues du Québec refusent de les reconnaître.
Pourquoi?
Sauf Kadir. Et Kadir, lui, quand il met ces patients-là aux antibiotiques, ben ça les guérit.
Bon, alors la question qui va peut-être avoir l'air niaiseuse puis qui va peut-être rester sans réponse, comment ça se fait que des gens... Même si peut-être que, je sais pas, moi, Santé Canada reconnaît pas les tests en Californie, en Allemagne, puis dans les autres pays qu'ils font. Comment ça se fait que quelqu'un, comme dans le cas de Julie, là, puis de son mari, puis son enfant, quand ils vont voir un médecin, puis ils disent, regardez, là, on a la Californie qui nous l'a diagnostiqué, il y a un médecin en Allemagne aussi. Mmh. On sait que la maladie existe, puis on sait qu'il y a un traitement qui existe. Amir Kadir l'administre à des gens, puis ça fonctionne. Pouvez-vous me l'administrer, s'il vous plaît? C'est tout?
Le médecin de famille, ça a l'air que c'est pas si simple que ça, la trithérapie, une fois que t'es vraiment infecté par la maladie de Lyme. Ce qui est relativement simple, c'est le traitement préventif.
Okay.
Alors, il y a, dans les régions où il y a beaucoup de maladies de Lyme au Québec. Au Québec, là, officiellement, il y a de la maladie de Lyme en Estrie, notamment.
Ouais.
Alors, dans ces régions-là, tu peux, si tu as été piqué par une tique, aller voir un pharmacien, puis le pharmacien va te prescrire des antibiotiques.
Okay.
De façon préventive.
OK. Pour éviter que ça rentre dans le système de santé, ils ont octroyé donc ce droit-là puis ce, aux
Mais
pharmaciens.
Mais il y a un gars de Montmagny, il y a quelque temps, qui a été piqué par une tique, qui s'est rendu à la pharmacie, et là, le pharmacien lui a dit non, pas dans notre région. Dans notre région, il faut que tu ailles voir un médecin.
Fait qu'il est embarqué dans son char, il a chauffé jusqu'à Sherbrooke, c'est quoi? Non, mais tu sais, c'est fou quand même.
Je sais pas. Il y a quelque chose d'un peu étrange, effectivement, dans le traitement. On dirait qu'on est encore très à tâtons et qu'on veut être prudent de peur que de faux diagnostics, etc. Peut-être que c'est une prudence qui est justifiée, mais il serait peut-être temps qu'il y ait une espèce de réunion des infectiologues avec Kadir, avec qu'on invite le laboratoire allemand, puis qu'il y a un briefing là-dessus, que les gens essayent de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée au Québec, mais qu'on se méfie beaucoup des laboratoires qui ramassent pas mal de cash à faire des diagnostics positifs ailleurs. Comprends-tu?
Oui, je comprends, mais c'est juste qu'il y a un juste milieu à trouver, parce que là, vraisemblablement, ça fait 3 à 5 ans peut-être là qu'on voit des histoires comme celle de Julie. Moi, j'ai un ami qui a eu la maladie de Lyme pendant un bout de temps. Il pensait qu'il était en dépression.
C'est ça.
Il pensait qu'il souffrait d'une dépression standard, là, bon, parce que les symptômes s'apparentaient à ça. Ça a pris des années. Il a fallu qu'il aille se faire traiter aux États-Unis. Ça a coûté une fortune. Puis ces histoires-là se multiplient depuis 5 ans, là. Donc, à un moment donné, il faut bien constater que ça existe, là. La maladie existe.
D'abord, on pourrait-tu standardiser les façons de fonctionner? Si de façon préventive, sur une piqûre de tique, on peut avoir des antibiotiques facilement en Estrie, on peut-tu penser que Québec est dans le même pays? Techniquement, là, selon les cartes, il n'y en a pas de maladie de Lyme chez les humains dans la région de Québec. Sauf que Julie, qui a la maladie de Lyme, elle en est absolument convaincue, Kadir en est convaincue aussi, Julie raconte que c'est parce que les 4 cas de sa famille sont même pas comptés dans la région de Québec. Parce que comme le diagnostic ne vient pas du test ELISA, qui est le seul admis ici, ils font comme si ça n'existait pas du tout.
Non, on n'est pas compté. Parce qu'en fait, là, eux, ils font... Non, on n'est pas comptabilisé, nous, parce que notre test, le test ELISA, le test que l'on considère, est négatif. Notre médecin nous a dit, bon, écoutez, on est content, on a un résultat américain, on a ce qu'il faut, je te réfère à un infectiologue. On envoie ça dans les hôpitaux de Québec. Mon médecin a reçu une lettre d'un infectiologue d'un hôpital de la région de Québec, lui mentionnant de ne plus lui référer de patients avec un test américain malgré les symptômes, car le test n'est pas reconnu et il ne le recevra pas. Mais il n'a même pas accepté de le recevoir pour le regarder. C'est comme ça que ça se passe au Québec.
Donc, eux autres, ils sont convaincus qu'ils ont ça. Est-ce qu'on pourrait documenter la zone grise? Parce que la maladie de Lyme est devenue une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand tu l'as, tu dois le dire. Mm-hmm. Bon. Pour que, précisément, la santé publique puisse savoir comment elle progresse. Est-ce qu'on pourrait documenter la zone grise? OK. Ils sont pas sûrs que c'est ça. Très bien. Mais documentez-la au moins. Parce que si vous apercevez après coup que c'était bel et bien ça... Ben là, vous allez pouvoir rectifier vos données scientifiques. Tu comprends?
Oui.
Et l'autre chose qui est extrêmement intrigante, c'est que tous les vétérinaires ont des cas de maladie de Lyme chez des chiens et des chats.
Ah, c'est ça.
Dans la région.
Dans la région de Québec, ici.
Moi, ce qui veut dire...
Ce qui m'a frappé du reportage d'Elisabeth, c'est que il semblerait que c'est très concentré en Estrie, puis on s'occupe de ça là-bas. Mais quand t'appelles dans les centres vétérinaires, on est au mois de mai encore, là. Les vétérinaires disent déjà, puis c'était ce qu'Elisabeth faisait écouter ce matin, la Bouchard en parle, là. Ils disent déjà, oui, on a eu 2-3 cas de chiens, par exemple, piqués par des tiques qui étaient porteurs de la maladie, là.
Est-ce que ça signifierait, par hasard, que les tiques, dans les sentiers de balade, se disent, oh non, cette jambe n'est pas assez poilue, je ne m'accrocherai pas après.
Ouais, c'est ça, exact. Il y a un auditeur qui dit, la tique peut tomber des arbres, et aussi, ils sont transportés par le vent. Moi, j'en ai souvent eu sous les bras. Et on le sent pas quand elle s'accroche.
Oh.
Ça y est, ça me pique un peu partout sur le corps. Là.
Ben, tu vois, dans les sentiers du Maine, du Vermont, etc., là, ils te disent surtout de surveiller tes jambes.
Ah, quelle horreur.
Ils disent surtout de surveiller les jambes.
Ah, quelle horreur.
Mais une fois, tu l'enlèves, c'est fini, là. Parce qu'elle prend un certain temps avant de contaminer ton sang, là. Je pense que c'est 24 heures pour qu'elle puisse vraiment te... Puis il semble qu'elle grossit aussi, la tique. Elle devient grosse parce que...
Oh, arrête! Je me sens déjà assez mal comme ça.